France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui demeurent après elles sur les planètes refroidies. Voilà comment le poète et sociologue Roger Caillois inaugurait son recueil de poésie intitulé « Pierres », ces pierres qu'il assemblait avec la plus fervente des curiosités. Comment cette collection d'archives du temps long de la Terre a-t-elle conduit Roger Caillois à créer des ponts subtils entre la poésie et la minéralogie, entre l'imagination et la science? C'est à cela que s'intéresse une exposition qui se tient à l'École des Arts Joyers de Paris et qui met en lumière parmi les plus belles pierres de la collection de Roger Caillois. Science Chrono part en visite et vous invite à suivre notre guide du jour, François Farge, minéralogiste, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et commissaire de l'exposition Rêverie de Pierre, Poésie et Minéraux de Roger Caillois, qui se tient donc à l'École des Arts Joyers de Paris jusqu'au 29 mars 2026. La visite commence tout de suite. Bonjour François Farge.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui, en tout cas dans cette exposition qui présente en partie donc des collections des pierres de Roger Caillois, qui nous invite aussi à rentrer dans l'imaginaire géologique, minéralogique d'un poète qui était aussi sociologue. Quand je dis poète, sociologue, essayiste, ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet homme qui était Roger Caillois et ses différentes fonctions et ses différentes passions?
Alors effectivement, c'est un brillant étudiant des lycées et collèges de Reims. Il va faire sur Paris plusieurs grandes écoles littéraires et il va être connu effectivement comme un spécialiste de la grammaire. Il va obtenir son doctorat de grammaire, ce qui est quand même assez rare. Et puis à un moment donné, il est rentré comme haut fonctionnaire à l'UNESCO, en charge du service littérature de l'UNESCO, et ça sera uniquement lors de ses moments perdus, les samedis et les dimanches, qu'il va produire tout ce qu'on connaît de lui, ce qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'il n'était pas un scientifique ou un académique professionnel. Et donc, ces samedis et ces dimanches, il va le consacrer à l'étude de tous ses essais de sociologie qui ont pour trait de décoder nos habitudes autour du sport, des jeux, de la féerie, du fantastique, et j'en passe. Et c'est vraiment un véritable touche-à-tout. Par contre, effectivement, la passion des minéraux, il va la découvrir un petit peu plus tard, en visitant le magasin d'Hérol, rue du Bac, à Paris. Et là, il sera surtout intéressé par l'aspect, je dirais, esthétique. Il le dit lui-même. Donc au début, c'est un peu une sorte de petite toccade esthétique et qui ne va pas plus loin. Et après, il se rend compte que dans les pierres, notamment celles qui sont présentées dans ce magasin, dans ce cabinet de curiosité, comme l'on dit encore de nos jours, il y a un certain nombre de pierres figuratives, des pierres à images, des agates, des paillisines, et il va commencer à s'y intéresser. Mais par l'angle de la sociologie, de l'historien de l'art, qui va l'étudier, il va se rendre compte qu'il n'est pas le premier à s'intéresser à ce genre de pierre qui fait rêver. Et donc, il va d'abord faire des études depuis l'Antiquité. Il va aborder les Chinois, qui collectionnent énormément, beaucoup, avec grande passion, ainsi que les Japonais et les Coréens, les pierres de rêve, comme on dit en Chine. Et puis, il va décoder les ressorts cognitifs, sociologiques, qui sont inhérents dans cette volonté que nous avons tous, de voir dans les nuages des formes évocatrices, mais aussi dans les minéraux, quand on a la chance d'en avoir des particulièrement spectaculaires, comme le cas de toute cette collection qu'il va amasser plus tard dans sa vie.
Alors là, on est dans un espace assez beau, obscur, avec déjà des pierres de Roger Caillois, de cette collection qu'il a récoltée au fil de sa vie. Peut-être qu'on peut parler de cette collection en soi, de son histoire, de là où elle est stockée, de comment elle est arrivée ici dans cette École des Arts Joyers. Peut-être qu'on peut tout simplement rappeler la genèse de cette exposition et du sens de cette exposition aujourd'hui en 2025 autour des pierres de Roger Caillois.
L'expo se divise en trois parties. Nous sommes là dans la première partie de l'exposition qui présente le personnage, parce que c'est un illustre inconnu. Il était très célèbre de son temps et puis on l'a un petit peu oublié. Et puis qui présente parmi les premières pierres qu'il a collectionnées, notamment sa première labradorite, qui était donc une pierre esthétique. Et on présente aussi dans une vitrine juste à côté donc son opus le plus célèbre sur les pierres, l'écriture des pierres, qui va être traduit dans de nombreuses langues, notamment en japonais de son vivant en 1976, hein, ce qui est quand même pas banal pour beaucoup d'écrivains français. Donc tout ça va aboutir à une consécration ultime pour un écrivain, c'est l'entrée à l'Académie française. Et dans une autre vitrine, juste derrière, nous présentons son épée d'académicien faite par Jean Vendôme, avec toute une série de pierres annexes qui ont servi à sa fabrication. Et donc, une partie de cette collection a grandi jusqu'à la mort de l'auteur en 1978. Et à ce moment-là, il y a eu des relations entre sa veuve, Alena Vikrova, et le muséum pour acquérir environ 200 pièces sur une collection qui en faisait 1300-1400. Alors, dans les cercles littéraires, on considère que c'est une très grosse collection, mais dans les cercles minéralogiques, on considère que c'est pas une si grande collection que ça. Mais n'empêche, avec environ 20 ou 30% de pièces qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Et c'est cette sélection qu'on présente ici dans l'exposition.
Alors vous le savez, dans Science Chrono, on aime beaucoup les archives. J'ai pas pu résister à la tentation, même si on est en visite dans cette exposition, d'écouter la voix de Roger Caillois. Et je vais vous proposer du coup d'écouter un extrait de l'émission Entretien avec Roger Caillois, diffusée sur France Culture le 4 avril 1970. Caillois parlait à Janine Worms de son amour des pierres. C'est l'archive de Science Chrono.
Ce que j'ai trouvé dans les pierres, eh bien, c'est la permanence et l'éclat et la transparence.
Les pierres sont devenues pour moi non seulement un exemple de poésie réalisée dans la matière, mais presque un modèle. Un modèle, j'ai défini une fois la poésie comme l'immuable dans l'inépuisable, eh bien, c'est un peu ce que je trouve dans les pierres, immuable par nature et inépuisable par les rêveries auxquelles elles prêtent.
Voilà la voix de Roger Caillois en 1970. François Farge, qu'est-ce que vous entendez dans cette parole, dans cette prise de parole de Roger Caillois autour des pierres ?
Eh bien, il fait une confession dans les années 70 qui était un peu innovante par rapport à sa propre pensée, parce que il a longtemps réfuté le rôle de la poésie dans l'écriture. Il la trouvait notamment dans un pamphlet qu'il a appelé Imposteur de la poésie. Il lui trouvait beaucoup de choses très désagréables, quasiment une littérature inutile, qui n'était pas assez profonde, qui apportait pas grand-chose. Et alors effectivement, dans les années 70, il avait déjà découvert les collections de pierres des grands lettrés chinois, notamment de la dynastie Song, donc je rappelle 11e siècle en Chine, et notamment l'un des plus connus, un certain Mifu, qui a collectionné les pierres à un point tel qu'il arrivait même à coucher avec ses pierres. Et surtout, honneur ultime, il se prosternait devant ses pierres le matin. Et c'est ça, pour l'empereur de Chine, c'était absolument insupportable, puisque on ne devait se prosterner que devant l'empereur et surtout pas devant une pierre. Et donc Roger Caillois s'est beaucoup identifié à ce Mifu, notamment, et après, de toutes ces collections de pierres à image, de pierres à voir, comme on dit à l'heure actuelle en Chine. Il y en a plus de 200 catégories différentes en Chine, c'est pour vous dire, encore de nos jours, hein, c'est quelque chose de très fort là-bas. Mais c'était relativement inconnu en Occident, et surtout, ils avaient l'habitude de souvent associer les pierres à des poèmes, hein, quelquefois même inscrits avec la plus belle des calligraphies, puisque Mifu est le plus grand des calligraphes chinois connus à ce jour. Et donc, il y a eu d'abord association d'une pierre relativement naturelle, brute, comme disent les joailliers, et avec de la poésie. Et ça va être vraiment un tournant au niveau de Roger Caillois. Il va appeler, justement, en se basant sur des traductions de textes attribués à Mifu, il va parler de randonnée mystique. Alors, en chinois, c'est plutôt des voyages spirituels. La traduction, elle n'est pas parfaite, je dirais, en fonction des connaissances de nos jours, mais ça va légitimer Roger Caillois dans cette acceptation occidentale et très nouvelle de l'association des pierres avec la poésie. Et pour ça, il va être vraiment un grand inaugurateur, il va être un grand pionnier, parce que à partir du moment où il va commencer à publier justement ces associations pierre-poésie, notamment dans l'écriture des pierres, et ben beaucoup de grands collectionneurs qui sont pas forcément des minéralogistes vont tomber dans cette passion, et qui fait que encore de nos jours, c'est l'un des grands axes de collection des minéraux.
Alors je résiste pas à la tentation quand même si on n'a pas l'image à la radio, que vous nous décriviez quelques-unes de ces pierres. On va peut-être avancer dans l'exposition, et puis vous allez peut-être me parler de vos pierres fétiches, de Roger Caillois.
Alors, je ne vais pas parler de mes pierres fétiches, parce que je suis censé être un scientifique et ne pas avoir d'avis particulier, personnel à établir, mais on va d'abord parler de la première pierre que l'on voit, cette fameuse labradorite qu'il a achetée en 1952 et qui montre justement des iridescences qui lui ont fait beaucoup rappeler celles des papillons, sur lesquelles il avait beaucoup travaillé, notamment le concept du mimétisme, qui était une version du masque, mais non non appliquée à des cultures humaines, mais à la nature. Et je dirais, il y en a juste une à côté qui est intéressante à décrire. C'est un quartz rose, des cristaux de quartz rose qui, c'est ultra rare dans la nature. Ça vient d'un petit gisement du Brésil qui est vraiment épuisé de nos jours. Et les pièces qui viennent de ce gisement sont extrêmement recherchées des collectionneurs, y compris des scientifiques. Et au centre, il y a un cristal de quartz fumé que vous pouvez voir, qui fait qu'un vous avez cette corolle de cristaux roses autour de ce quartz fumé. Et il l'a appelé le charme discret d'un bijou rosé noir. Et il l'a aussi renommé Sexe 2, parce que c'est une pierre qui, selon lui, fait référence à ce tableau de Manet qui est au musée d'Orsay, Lola de Valence, qui est un tableau qui montrait une prostituée, donc qui avait fait un grand scandale à l'époque, mais que justement, pour laquelle Roger Caillois fait le parallèle, c'est un peu pour nous au muséum, notre origine du monde à nous.
L'origine du monde du muséum, alors on va avancer dans les salles de cette exposition consacrée à la collection de pierres de Roger Caillois. Je vous suis et on continue dans cette belle obscurité qui est parfaitement adaptée à la présentation de ces magnifiques pierres, de ces magnifiques collections. Roger Caillois, François Farge, quel était son rapport aux sciences? Parce qu'on a beaucoup parlé de son rapport à la poésie, du lien qu'il faisait entre poésie et ses collections minéralogiques. Comment il considérait les sciences géologiques, les sciences minéralogiques, si tant est qu'il les considéra?
Oui, alors il se disait minéralogue hein, ou minéralogiste des fois. Il acceptait volontiers qu'on le décrive ainsi, mais en fin de compte, il l'était pas. D'ailleurs, il le dit lui-même qu'il s'intéresse pas aux espèces, aux gisements, aux techniques de formation, aux modes d'occurrence dans la nature. Ça l'intéresse pas du tout. Ce qui est assez étonnant, parce que c'est quelqu'un qui revendiquait d'avoir une culture universelle, d'être une sorte de polymathe des temps modernes. Mais la science, il a vraiment bloqué dessus. Et j'en ai pour preuve toutes ces archives que j'ai retrouvées à la médiathèque de Vichy en 2023, y compris sa documentation. On voit bien qu'il ne lit que des livres d'amateurs, il n'a aucune bibliographie professionnelle, je dirais, pour nous les minéralogistes, alors que dans les années 70, un peu dans les années 60, mais surtout les années 70, vraiment les sciences de la Terre connaissent une nouvelle révolution copernicienne, je dirais, avec le développement de la tectonique des plaques, qui est maintenant très reconnue, mais à l'époque qui était encore très discuté, des développements incroyables sur la géochimie, les datations qui permettent d'avoir des âges sur des minéraux, l'âge de la Terre et tous ces ensembles de données, mais sur lesquels il réagira pas du tout. Et dans cette deuxième pièce, justement, on essaye de voir justement quels sont ces thèmes d'inspiration. Alors, il y en a trois essentiellement. D'abord, les grands espaces d'Amérique qu'il a connus lors de son exil forcé pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Et on retrouve dans des pierres qu'il a acquises bien plus tard, justement, ces mémoires anciennes de grands paysages qui l'ont beaucoup impressionné. Et dans ses écrits, qu'il revendique toujours pas poétique, mais qu'ils le sont absolument, il suffit de les lire, L'aile froide, par exemple, c'est absolument magnifique, dans lequel il décrit comment, le froid, les grands espaces antarctiques du sud du Chili, la terre de feu, lui inspire une énergie fortifiante, comme il le dit. Et puis, tout juste à côté, on voit l'influence de l'Asie, comme nous avons mentionné juste avant, et notamment l'influence de Mifu, et notamment les pierres de rêve. Et donc, il a essayé de collectionner à son niveau toute une série d'objets orientalistes, comme on disait à l'époque, à la fois de Chine et à la fois du Japon. Et puis après, il va y avoir là, celui qui a découvert des pierres curieuses va devenir celui qui va étudier justement pourquoi l'humanité s'intéresse aux images dans les pierres. Et notamment, c'est la Renaissance, Léonard de Vinci, les paysines de Toscane, dont on a une progression, j'ai tenu à qu'on ait une progression justement qui montre la progression de la pensée de Roger Caillois par rapport à ces paysines. Au début, on en a une qui s'appelle Entrée de grotte, qui est très connue dans le monde entier, qui a été illustrée dans l'écriture des pierres. Et puis, elle représente quelque chose de relativement figuratif. On a tous l'impression de, effectivement, voir une grotte inondée qui s'ouvre sur un espace lointain, avec une sorte de soleil noir au fond qui nous guette, qui nous regarde. Il y a toujours cette espèce de regard invisible chez Caillois dans ces pierres. Et puis à côté, on a des pierres qui rappellent plus les grands espaces américains. Et puis au fur et à mesure, donc il étudie les grands auteurs de la Renaissance et de la période classiques, notamment Kircher, qui est un moine allemand catholique qui considérait qu'il était polymathe et qu'il savait tout sur tout. Et donc, il avait énormément publié à son époque. Et justement, il dit que dans ces paysines, on a l'impression de voir des villes autour, Ups Turita, comme il dit dans son traité de 1686, si je me rappelle bien, et dans lequel il dit que, en fait, ce sont des illusions. Ce sont des illusions parce qu'on ne peut pas avoir des villes autour, comme on l'en disait beaucoup à l'époque, qui soient incluses dans des pierres. Et après, il va l'utiliser pour justifier la création en disant que si on trouve des fossiles dans des roches, ça veut dire que c'est des illusions de la nature, des jeux de la nature, comme on disait à l'époque, mais qu'il n'y avait rien de réellement formel et de scientifique là-dedans. Et après, Kaiwa va s'intéresser à ces paysines qui sont comme des pierres encadrées. On voit des paysines là devant nous qui ont un motif central, mais tout autour qui semble avoir été encadré par la nature de façon naturelle, qui nous font penser presque à un tableau avec un premier plan et un second plan. Et alors là, on peut imaginer beaucoup de choses. C'est le début de la rêverie, c'est le début du Kaiwa qui commence à être poète.
Kaiwa, il parlait des tableaux involontaires de la nature somnambule. Donc.
Ouais, voilà. On est complètement là-dedans et on n'est qu'au début. Et alors, peut-être dans la deuxième que l'on voit ici, on a l'impression de voir une sorte de tour au milieu d'une nature et puis il y a l'air d'y avoir une sorte d'oiseau ou d'ange dessus. On pourrait imaginer que c'est l'ange de la place de la Bastille sur la fameuse tour en question. Et puis, on retombe sur des déserts. On a aussi des paysines qui sont beaucoup plus lointaines. Et après, il y en a une dernière qui ressemble pas à grand chose, qui est très intéressante parce que c'est l'évolution de sa pensée. Il va devenir de plus en plus abstractif. Et dans cette pensée, dans cette pierre, pardon, on voit bien qu'il a délimité un rectangle au crayon noir. Et son but, parce qu'il le dit dans plusieurs textes, c'était de découper la pierre pour ne garder que cette section-là. Et pour lui, ça lui faisait penser à un tableau de Böcklin, notamment l'île aux morts. Il le décrit très bien, qui est au Deutsches Museum à l'heure actuelle, à Berlin. Et qui lui rappelait notamment les sapins qui ornent cette île vers lesquels les morts se dirigeaient dans la tradition grecque.
On a parlé de Kaiwa comme finalement pas d'un scientifique, mais plus d'un poète, d'un polymathe, d'un curieux, d'un esthète. Il s'inscrit, Kaiwa, quand même dans un contexte intellectuel bien particulier, celui de la moitié du XXe siècle, post-surréaliste, où on a quand même un dialogue étonnant qui se noue entre... on va dire, une certaine esthétique de la nature et les sciences. Comment on peut parler de ce lien-là qui se noue entre les intellectuels et cette curiosité pour les beautés de la nature, sans forcément une connaissance exhaustive des mécanismes de cette beauté, mais comment il s'inscrit là-dedans, lui ?
Alors, je ne parlerai pas d'une connexion, je dirais, art-science, je dirais plutôt art-nature, une vision plutôt naturaliste qui considère, qui aime les beautés de la nature, mais qui ne vont pas au-delà. On est vraiment dans le cabinet de curiosité du XVIIIe siècle. Kaiwa a du mal à s'en sortir. Et donc, la science que Kaiwa va appliquer, c'est plus une science des sciences humaines, donc la sociologie, le cognitif, notre perception, notre sensibilité par rapport à tout ça. Et là, effectivement, il va être très pionnier parce que l'essor des neurosciences n'est pas encore très développé à cette époque-là. Et lui, il pressent qu'il y a tout à faire dans ce domaine-là parce que notre cerveau, nos yeux voient, mais notre cerveau décode. Et c'est ça, il le comprend très très bien. Et justement, il essaye de trouver, avec des moyens non scientifiques, sans laboratoire, le samedi et le dimanche, assis sur son lit, à lire les traités des uns et des autres, mais toujours des traités littéraires, c'est jamais une bibliographie scientifique. Il arrive dans son coin à décoder tout ça.
Alors on va avancer, on continue dans cette exposition donc à l'école des Arjoyers autour de la collection de pierres de Roger Kaiwa. On arrive dans une autre salle où là on est face à de merveilleuses agates, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez me les décrire et... Les agates, je crois que ça avait une place un peu particulière dans le cœur de Roger Kaiwa.
Oui, les agates, c'est un tiers de sa collection, donc c'est beaucoup, mais c'est surtout à la fin de sa vie. Au début, il collectionnait un peu tout, comme on l'a vu dans la première salle, où il y a un ensemble de minéraux, où il y a effectivement des agates, mais pas que. Mais effectivement, en vieillissant, il va s'intéresser de plus en plus aux agates. Et dans cette petite pièce que nous avons ici, que j'ai appelée Mémoire de Pierre, nous avons, je dirais, un petit peu la petite partie partie scientifique, géologique qu'il peut y avoir chez Kaiwa, où justement il va s'intéresser à des pierres, notamment les septariats, les concrétions que vous voyez sur la gauche, qui sont des nodules ronds qui ont été coupés en deux et qui montrent des craquelures à l'intérieur qui ont été remplies par un autre minéral avec une couleur très contrastée par rapport à la couleur du nodule. Et il va beaucoup les aimer parce que dans ces nodules, il va y voir des tas de formes, des processions de divineresse, il va y voir des animaux, notamment le poulpe qu'il adore énormément. Et puis, tout à côté, il y a Pierre de nos sentiers qui sont des pierres toutes simples sur lesquelles il dit dans l'introduction de Pierre, dans cette fameuse dédicace, que c'est des pierres qui n'intéressent pas le scientifique, entre autres. Alors, c'est pas très juste. Là, il est un peu dur parce que justement, les scientifiques s'intéressent beaucoup à ces pierres de nos sentiers. C'est bien plutôt les joailliers qui s'intéressent pas à ces pierres. Mais les scientifiques ont analysé énormément les silex, les granites que l'on peut voir ici, avec de magnifiques figures d'érosion qui ont des formes suggestives qui font penser à des animaux fantastiques ou réels, connus ou des humains. Et puis, en parallèle de cette variété d'agates que l'on voit aussi, qui sont aussi très suggestives, on voit notamment une agate complètement à droite que Roger Caillois a décrit dans Pierre, c'est le colibri à la queue d'améthyste qui est en train de susurrer à une petite fleur quelques permissions pour aller absorber ce sucre. Et on semble voir des poissons, des créatures étranges, des visages qui nous sourient, et puis d'autres un peu plus énigmatiques où chacun justement dans l'exposition pourra faire sa propre émotion, sa propre rêverie. Et puis d'autres catégories de pierres, onyx, jaspe, dendrite, sur lesquelles il a beaucoup travaillé. Et évidemment, ce sont des pierres que les minéralogistes ont beaucoup, beaucoup étudiées, surtout les dendrites. On a l'impression de voir des végétaux fossiles, mais elles sont bien des traces de la vie ou non. Et effectivement, il y a encore beaucoup d'études à l'heure actuelle pour déterminer leur mode de formation.
On pense. Des fougères, oui. Pétrifiées.
Oui, on a l'impression de voir des fougères. Et dans les premiers temps, on les a pris pour des fossiles. Mais après, à l'époque de Kaiwa, ils commencent à dire non, c'est purement minéral, ce sont des infiltrations minérales. Mais de nos jours, on en revient sur cette interprétation. Et dans certains cas, on pense que c'est des infiltrations de bactéries qui ont digéré du manganèse. Et là, ces dendrites noires, en fin de compte, c'est des colombins de bactéries, en fait. Pour dire ça de façon très auguste.
Avançons donc dans cette dernière salle au plafond beaucoup plus haut, avec une verrière magnifique. Cette salle, elle s'appelle... Enfin, je vois un premier mot, image crépusculaire. Donc là, on sent qu'on approche vers la fin de l'exposition, de la vie, du parcours aussi de Roger Caillois. Décrivez-moi un peu comment vous avez conçu cet espace.
Alors, cet espace, c'est la troisième partie de l'exposition, la plus grande, qui va traiter justement d'un Caillois, ça y est, qui a apprivoisé les minéraux à sa manière et qui va commencer à les décrire au fur et à mesure de ses inspirations de différentes manières. Et notamment, il va reprendre cette expression de Mallarmé bien connue, le démon de l'analogie, et qui est vraiment très juste par rapport à Caillois, parce que Caillois va faire beaucoup d'analogies dans les pierres, il va y voir des tas de choses, des tas d'images, mais il revient toujours en arrière en se disant attention, ce ne sont que des images, que des rêves, et donc c'est mon cerveau qui m'induit sur la voie de l'analogie, c'est une sorte de démon. Donc il va y avoir cet ange blanc et cet ange noir dans la pensée de Caillois tout le temps, et où justement il ne s'arrête pas simplement à voir des choses dans les pierres, il sait revenir en arrière. Et ça, c'est une grande différence avec beaucoup de grands collectionneurs de pierres de rêve, même à l'heure actuelle, qui restent dans l'analogie et qui veulent pas en sortir parce qu'ils sont bien douillettement assis et encrinqués dans leurs rêves. Et c'est vrai qu'on préférait y rester. Mais ça, c'est le Caillois scientifique, le Caillois des sciences humaines qui revient toujours à l'ordre dans sa pensée pour revenir en arrière, pour se dire oui, mais attention, ce ne sont que des analogies.
Alors, qu'est-ce qu'on peut décrire dans cette pièce ?
Alors, on va commencer la première vitrine. Je l'ai voulu assez spectaculaire et très polychrome, sur deux formes très simples sur lesquelles il s'est beaucoup intéressé, les triangles et les cercles. Et alors, d'un côté, on voit toute une série de tranches de tourmaline de Madagascar, dont à l'intérieur, quand elles sont débitées en tranches et polies, on voit ce que nous appelons des figures de croissance de la tourmaline. C'est un peu comme les cernes du bois. Elles augmentent avec la croissance du cristal. Alors, le bois, c'est des dizaines d'années, alors que là, on est en milliers, voire en millions d'années, et on voit ces cernes de croissance qui sont triangulaires. Alors, Kaiwa s'est pas du tout intéressé donc à ces cernes de croissance à proprement parler, c'est d'y voir un triangle, une sorte de philosophie, une métaphysique, peut-être même un ésotérisme. Et puis, à côté, il y a des ronds, il y a des pierres très différentes cette fois-ci, de plein de couleurs différentes, mais de nature très différente. C'est pour montrer le caractère justement non scientifique chez Kaiwa, où il faisait ses classifications à lui. Et là, sous le thème du cercle, il regroupe des pierres très différentes, des rhodochrosites d'Argentine, des agates de l'Uruguay, des jaspes des États-Unis, qui traduisent justement à la fois cette ambivalence entre la nomenclature des minéraux qui vient des scientifiques, mais aussi sa reclassification à lui, suivant ses propres critères.
Un jeu qui est à la fois, il disait, invention et savoir.
Oui, alors absolument, c'est exactement ça. Et notamment, la vitrine qui est juste à côté, vous voyez, elle est beaucoup plus monochrome. Et je l'ai voulu comme vraiment une grande opposition par rapport à la précédente, où là, on rentre véritablement dans le démon de l'analogie. Et pour un écrivain, quelle plus belle analogie que l'écriture dans les pierres, justement, le titre de son œuvre, où justement, ces pierres, il va y voir des hiéroglyphes sans signification à travers ces figures, cette météorite, et ce granit graphique, on a l'impression d'y lire des signes cunéiformes. Non, c'est les lois de la nature. Et juste après, on a des pierres qui commencent à invoquer des caractères chinois. C'est très important pour Kaiwa. Le caractère chinois est vraiment pour lui une des sources de son inspiration. Mais qui dit écriture et démon de l'analogie implique le repentir, le retour en arrière, comme on l'a dit tout à l'heure, la rature. Et donc juste à côté, il y a deux agates qui montrent, selon lui, des ratures.
Toute cette salle est merveilleuse. On arrive bientôt au terme de notre visite et je ne veux pas tout dévoiler parce que j'ai envie que les personnes qui nous écoutent viennent aussi visiter cette exposition dédiée à Roger Kaiwa. J'aimerais juste conclure avec ces textes parce que on a parlé de ces pierres, mais ces pierres vivent à travers les textes de Roger Kaiwa. Vous vous êtes fait archiviste et vous le savez, Science Chrono, c'est une émission d'archives. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces archives et comment vous avez donné une seconde vie à ces archives à travers ce livre Pierre Anagogique?
Eh bien, à chaque fois que les minéraux de Roger Kaiwa étaient présentés, c'était souvent que des expositions de minéraux, quelquefois même dans le cadre de biennales d'art contemporain comme à Venise ou ailleurs, où en fait, il n'y avait même pas d'étiquette, les pierres étaient montrées nues. C'était réduire Kaiwa à « Sois belle et tais-toi » pour ces pierres et ça m'a toujours embêté parce que d'un autre côté, les littéraires, quand ils étudiaient les pierres de Roger Kaiwa, il les décrivait, bon, un jaspe ou une agate, on sent que c'est pas si important. C'est avant tout la poétique qui intéresse le littéraire, c'est bien normal. Et là, pour la première fois, on a fait une exposition justement qui a vraiment les regards croisés entre les textes et les minéraux. Le synopsis est complètement axé en fonction de ses écrits, mais c'est toujours la pierre qui est d'abord, hein, c'est la source d'inspiration. Et donc, on présente justement des extraits de textes en français, mais aussi en anglais, que chacun pourra écouter au fur et à mesure, pour justement avoir la substantifique moelle, comme on dit, donc le type d'écriture de Roger Kaiwa, qui est une écriture qui est souvent dite comme difficile et érudite, mais on a choisi des extraits qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont très simples et qui permettent à notre tour de rêver avec les contingences que Kaiwa nous impose, c'est-à-dire ce sont des analogies, mais avec le petit démon qui est en embuscade juste derrière. Et effectivement, j'ai retrouvé beaucoup de ces manuscrits en 2023 à la médiathèque de Vichy. Et c'est la dernière partie de l'exposition, Pierre Anagogique, qui correspond à ce livre que j'ai reconstitué, qui me semble être le dernier livre de Roger Kaiwa, dont j'ai retrouvé les derniers textes manuscrits en très piteux état parce qu'il avait déjà eu un premier AVC début décembre. Et je pense que ces écrits sont des environs du 18 décembre et deux jours après, il va décéder.
1978.
En 1978, il va décéder d'un deuxième AVC qui sera fatal, ce cas-là. Et donc, il n'a pas eu le temps de publier ce recueil. Et donc, j'ai eu la chance de le retrouver en 2023, de l'ordonner, de trouver ces notes qui permettent de bien comprendre ses motivations littéraires, parce que c'est important de pas trahir l'auteur et surtout de l'associer avec les photos des minéraux qui correspondent. Et c'est un beau livre donc a été ce travail du muséum au Muséum national d'histoire naturelle qui a été mis en papier en livre grâce à l'école des arts joailliers et Gallimard.
Et il prolonge à merveille cette exposition Rêverie de pierre, poésie et minéraux de Roger Kaiwa qui se tient à l'École des Arts Joyers de Paris jusqu'au 29 mars 2026. Une exposition qui est vraiment merveilleuse et qui se lit et qui se visite comme une anthologie de poèmes minéraux. Voilà, toutes ces vitrines sont des poèmes à leur façon. Merci beaucoup en tout cas à vous, François Farge, et bravo pour cette exposition.
Merci à vous. Et puis venez à l'exposition jusqu'à fin mars. Et puis venez faire de beaux rêves.
Stones par Sonic Youth dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir cheminé dans l'exposition des pierres de Roger Caillois, on part faire une archéologie d'un genre bien particulier.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Oubliez tout ce que les publicités ont voulu vous faire croire sur les fromages dont la recette a traversé les âges depuis la nuit des temps. Ces fromages qui sont dans nos assiettes ont au mieux un héritage en vague lien avec le Moyen-Âge, mais sont surtout conditionnés par l'histoire récente de l'industrialisation de la production du lait. Dans ces conditions, comment s'approcher du goût et des recettes des fromages antiques qui étaient centraux dans l'alimentation de certaines populations? C'est la mission technique et gustative à laquelle s'attellent des chercheurs en archéologie expérimentale qui, chemin faisant, redessinent une histoire des techniques, une histoire des mentalités et plus généralement une histoire populaire grâce à cette archéologie de l'alimentation. L'entretien archéologique se fait donc aujourd'hui gastronomique et vous apporte sur un plateau des connaissances affinées sur les fromages. C'est la fête, on ne se refuse rien en matière de jeu de mots. Dominique Frère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université Bretagne Sud. Vous êtes membre du laboratoire Thémos pour Temps, Monde, Société et vous avez écrit le livre Fromages antiques à la recherche des fromages perdus aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci de venir partager aujourd'hui vos recettes de fromages antiques. On va voir que derrière l'aspect banal du fromage, l'archéologie nous révèle toute une histoire technique, culturelle et sociale. Et ma première question, Dominique Frère, sera assez simple. L'histoire du fromage est, comme on va le voir, une histoire intimement liée à celle de l'élevage. Mais est-ce qu'on peut dire que avant le néolithique, les humains connaissaient déjà, d'une certaine façon, des proto-fromages, et si oui, lesquels?
Alors, c'est une question difficile parce que, évidemment, nous n'avons strictement aucune source. Un fromage ne peut pas se conserver sur des milliers d'années. Il n'y a que des hypothèses et, en fait, nos ancêtres du paléolithique étaient aussi des chasseurs. Et en tant que chasseurs, on peut penser aussi qu'ils étaient bouchers. Et en tant que bouchers, donc, ils savaient très bien dépecer un animal. C'est vraiment un travail de boucherie. Et peut-être se régalaient-ils du contenu d'un des estomacs, justement, des ruminants. Mmh. Et un estomac, justement, qui est riche en enzymes. C'est ce qui permet de la fabrication du fromage. Ce qui fait que le lait digéré par les jeunes, que ce soit donc les ancêtres des chevreaux, des veaux, justement des vaches sauvages, leur estomac était plein de ce qu'on pourrait appeler du fromage, tout simplement.
Et donc, de toute façon, on a découvert le fromage en dépeçant de jeunes ruminants qui avaient dans leurs estomacs déjà un proto-fromage.
Sans doute que c'était justement pour eux un régal. Et peut-être qu'on est à l'origine justement de l'invention de la présure, de la présure d'origine animale.
On parlera bien sûr de comment on fabrique du fromage et comment on a découvert, comment on a mis au point ces premières recettes de fromage. J'évoquais le néolithique, bien sûr, l'agriculture, la domestication, des bovins notamment, mais pas seulement, des ovins, des brebis, des chèvres. Est-ce qu'on a une idée de la place qu'occupait la production laitière dans cet élevage-là? Est-ce que c'était une place centrale ou bien est-ce que c'était plutôt secondaire?
Autrefois, on pensait que ce qu'on peut appeler les laitages en général occupaient une position secondaire dans les pratiques alimentaires et dans les objectifs de la domestication animale. On s'aperçoit maintenant que les produits laitiers sont au centre, en fait, de la domestication animale, de la domestication de ce qu'on peut appeler de manière générale les bêtes laitières. On s'en aperçoit tout simplement parce que dès l'origine de la domestication, en fait, on fabrique des laitages.
Alors, on fabrique des laitages. Le fromage dans tout ça, quelle place occupe-t-il dans cette fabrication de laitages et quel intérêt concret y a-t-il à fabriquer du fromage ?
Alors, l'intérêt est simple, c'est-à-dire que le lait cru ne se conserve pas très longtemps, on va dire 3 jours au maximum. Il est très dangereux de consommer du lait cru parce qu'on a évidemment toute la phase de transformation du lait qui va conduire de la fermentation jusqu'au pourri, tout simplement. Et on peut dire que la définition la plus simple du fromage, mais pas seulement du fromage, hein, de tous les laitages en général, que ce soit le beurre, le lait fermenté, le fromage, puis plus tard le yaourt, c'est une conserve de lait.
Alors, la néolithisation des cultures commence dans le croissant fertile. Est-ce que les premières traces de fromage se situent dans cette aire géographique ou bien y a-t-il des régions qui vont, plus que d'autres, fabriquer des fromages pour cette période néolithique déjà ?
Alors, c'est le croissant fertile, évidemment. Puis, avec la diffusion du néolithique vers l'Occident, vers l'Ouest, on voit apparaître les premières faisselles en Europe centrale et en Europe occidentale à partir du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Ce qui fait que, oui, dès qu'il y a domestication des bêtes laitières, il y a fabrication du fromage.
Quelle difficulté y a-t-il pour vous, en tant qu'archéologue, à retrouver ces traces de fromage, puisque ce sont des produits qui ne se conservent pas par définition, puisqu'ils sont organiques. Alors, comment on va mener cette enquête-là ?
Alors, on a un objet qui est caractéristique de la fabrication du fromage, c'est la faisselle. Donc, la faisselle qui sert à égoutter le caillé, à se débarrasser en particulier du petit lait. Mais avec le problème, c'est d'abord, il faut savoir identifier une faisselle. Tout vase-passoire n'est pas forcément une faisselle. Un vase-passoire a pu servir à autre chose qu'à égoutter le caillé. Et ensuite, deuxième problème, c'est que, on le voit en ethnographie, par exemple, la plupart des faisselles, jusqu'à une date récente, on va dire jusqu'au 19e siècle, même 20e siècle, les faisselles étaient en bois et en vannerie. C'est-à-dire qu'archéologiquement, le bois et la vannerie, il faut des conditions particulières pour que ces faisselles en bois et vannerie soient conservées.
Alors là, vous posez une question très importante, Dominique Frère, c'est celle des sources matérielles qui vont nous permettre d'attester de la production du fromage. Vous parliez des faisselles en céramique, de ces objets parfois en vannerie qui permettaient de fabriquer du fromage. Quels sont les autres source, preuve évidente, objective de la fabrication du fromage dans des périodes reculées ?
Alors, évidemment, on va parler de la vaisselle laitière en général, ou la vaisselle fromagère, la vaisselle laitière, qui était caractéristique de nos campagnes jusqu'à une date qui n'est pas si lointaine que cela. Donc, une vaisselle qui est en céramique, elle a du néolithique même jusqu'au 19e siècle, des pots à lait, des seaux, on peut appeler ça aussi des pots, donc pour la traite. Et souvent, c'était dans les mêmes contenants que donc on pouvait traire l'animal et faire cailler le lait. Et on a différentes catégories de vaisselle laitière. Mais le problème, c'est comment identifier un pot à lait, si ce n'est par le recours à des analyses chimiques, des analyses chimiques de contenu. Parmi les autres sources matérielles, il y a les sources évidemment archéozoologiques qui jouent un rôle très important, c'est-à-dire l'étude des ossements des bêtes laitières, que ce soit des brebis, des chèvres, des vaches, et une étude sur la date d'abattage qui permet de savoir si ces animaux ont été exploités pour leur lait. Mais en sachant que même jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de véritable spécialisation dans nombre d'élevages. Quand vous aviez des vaches, par exemple, ces vaches servaient à différentes fonctions, y compris celle de produire du lait.
Donc là, c'est des traces finalement, d'une certaine façon indirecte, par l'âge de l'abattage. On sait qu'on tuait les plus jeunes pour que les vaches ou les brebis, etc., continuent à produire du lait en continu, c'est ça ?
Une partie des plus jeunes,
il est mâle,
évidemment.
Est-ce qu'on a des traces aussi, peut-être plus indirectes, plus subtiles, des biomarqueurs qui sont aujourd'hui plus faciles à traquer avec les instruments technologiques dont on dispose en tant qu'archéologue pour aller dire « Ah tiens, dans tel contenant, il y avait ce qu'on pourrait appeler du fromage ».
Alors oui, donc il y a les analyses chimiques qu'on appelle les ORA, Organic Residue Analysis, qui fonctionnent par, en particulier par chromatographie en phase gazeuse et qui permettent d'isoler et d'identifier les biomarqueurs donc des graisses animales. Et parmi les graisses animales, évidemment le lait, puisque c'est une graisse animale. Et l'avantage, c'est que ce sont des biomarqueurs qui se conservent bien sur la longue durée par rapport à d'autres biomarqueurs. Avec un problème, c'est que la plupart du temps, il est difficile d'identifier l'origine du lait. Donc on peut identifier le lait, la présence de lait, mais savoir si c'est du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait de vache, c'est plus difficile. Et surtout, il est pour l'instant impossible d'identifier la transformation laitière. C'est-à-dire, on peut savoir qu'un pot a contenu un produit laitier, mais était-ce du beurre, était-ce du lait fermenté, était-ce du fromage, c'est plus difficile à savoir.
Alors, on avait consacré il y a peu de temps une émission aux isotopes avec Rosenkolter. Là aussi, est-ce que dans les dents des humains, on peut retrouver des marqueurs atomiques, quasiment, de la présence d'une consommation d'un produit laitier qui serait, oui ou non, du fromage ?
Ah oui, bien sûr. Donc, en effet, les analyses isotopiques permettent de connaître les pratiques alimentaires et, au niveau des humains, permettent de savoir si telle population a consommé du lait. Alors ça, évidemment, c'est très important. Et on va dire que l'idéal, c'est de croiser les différentes données, c'est-à-dire avoir des données archéozoologiques, avoir des données isotopiques sur la consommation humaine et avoir des données chimiques sur les récipients. C'est parfois possible, mais dans la réalité, c'est quand même plus difficile de croiser ces trois types de données.
Donc là, on parle de traces de production de fromage. Est-ce qu'on peut situer la première trace évidente, connue aujourd'hui et la plus ancienne, de fabrication de fromage de façon 100% certaine ?
Alors, la fabrication de fromage, évidemment, remonte à l'origine de la domestication. Alors, pour des fromages qui aient été conservés, alors ce n'est pas un hasard, le fromage le plus ancien que l'on ait, donc, est en Égypte. Donc, une tombe de Saqqara. Évidemment, là, ce sont les conditions particulières de l'archéologie égyptienne qui permettent la conservation des fromages. On a un fromage très ancien qui remonte aussi à l'âge du bronze, donc qui a été découvert en Chine. Et là, le contexte est vraiment...
C'est étonnant pour la Chine.
Tout est étonnant dans ce contexte. Premièrement, parce que ce fromage n'était pas fait pour être consommé. C'était les momies qui étaient... c'était une sorte d'offrande et les momies qui étaient enduites de ce type de fromage. Et en plus, on est en Chine, c'est-à-dire à l'âge du bronze et donc population chinoise qui n'est pas connue justement pour la consommation du fromage. Donc tout est étonnant dans ce contexte.
Est-ce qu'on a retrouvé des fromages encore vraiment bien conservés ou voilà, comme on a pu retrouver par exemple à Pompéi des pains calcinés? Est-ce qu'on a trouvé des à Pompéi aussi, je sais pas, des
fromages calcinés? Alors au pied du Vésuve, oui, on a découvert aussi du fromage carbonisé au pied du Vésuve. Mais moi, une des découvertes qui m'intéresse le plus, ça ne va pas jusqu'à l'Antiquité, mais c'est un fromage qui a été trouvé dans une épave, donc du port de Rhodes, mais une épave byzantine, 12e siècle après Jésus-Christ. Et là, cette découverte est absolument exceptionnelle parce qu'on a du fromage qui était contenu dans une peau de chèvre retournée.
Wow. Alors, votre livre, Dominique Frère, s'intitule, je le disais, « Fromages antiques à la recherche des fromages perdus ». Déjà, pourquoi vous vous êtes orienté en particulier vers cette période antique pour mener votre enquête sur ces fromages-là et bien sûr ensuite essayer de reproduire, et on va goûter même ces fromages tout à l'heure?
Bien, tout simplement parce que je suis donc antiquisant, étruscologue, et on est dans le domaine de l'archéologie de l'alimentation, qui est un domaine qui est désormais bien connu, en particulier à partir des années 1970, le développement de l'archéozoologie, de l'archéobotanique. Mais le problème, c'est que le fromage échappe en partie à ces deux domaines, que l'archéobotanique et l'archéozoologie. Alors qu'on est en lien avec ces deux domaines, par exemple, parce que pour la fabrication traditionnelle du fromage, les ressources végétales jouent un rôle très très important. Évidemment, les ressources animales, dont le lait en particulier et la présure. Et jusqu'à une époque récente, on va dire les années 2020, on a en particulier le livre d'Alain Ferdière sur le fromage en Gaule, et qui est désormais l'ouvrage de référence à la fois pour toutes les sources donc, qui sont présentées dans cet ouvrage, les sources matérielles, les sources textuelles, les sources iconographiques, et qui en font véritablement désormais l'ouvrage de référence. Et donc, on peut dire que c'est seulement depuis les années 2020 que naît, s'épanouit une archéologie, alors du fromage et on l'espère pour la suite des produits laitiers en général.
Quelle était la place du fromage dans le monde antique? Est-ce qu'il y avait aussi, Dominique Frère, des zones, des aires géographiques et culturelles qui étaient plus consommatrices de fromage que d'autres?
Évidemment, nous sommes tributaires des sources textuelles. Donc, qui dit source textuelle pour l'Antiquité, là je ne vais parler que de l'Antiquité gréco-romaine, on a évidemment les sources textuelles grecques, les sources textuelles latines, donc différents types de sources. Donc, vous avez parlé d'Homère, et donc Homère évidemment le premier, hein, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, mais on a de nombreux textes jusqu'à la fin de l'Antiquité, et on va aller après jusqu'à l'époque byzantine, donc qui traitent de, à la fois, on va dire, des modes de consommation de fromage, mais aussi de techniques de fabrication de fromage. Pour d'autres aires culturelles, évidemment, pour les mondes barbares, on va dire le monde celtique, évidemment, c'est plus difficile. Si ce n'est que des auteurs, comme Pline l'Ancien, nous disent que les barbares ne savaient pas fabriquer le fromage.
Ce qui était une erreur, ce qui était un cliché. Vous parliez, Dominique Frère, d'Homère. Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un passage de l'Odyssée où il est question de fromage. Ulysse arrive avec ses compagnons dans la caverne de Polyphème, le cyclope. Nous eûmes vite trouvé sa caverne. Il n'était pas chez lui, il était au pacage avec ses gras moutons. Pénétrant à l'intérieur, nous fîmes la revue. Fromage sur tous les clayons, agnelets et chevreaux dans les enclos bondés, chaque âge avait sa stalle à part. D'un côté étaient les aînés, de l'autre les cadets, plus loin les nouveau-nés. Vases remplis de petits laits, terrines et seaux façonnés qui lui servaient à traire. Alors mes compagnons me supplièrent instamment de prendre les fromages, puis de tirer des enclos agnelets et chevreaux, et de regagner sans retard le prompt navire afin de repartir sur l'onde amère. C'est moi qui refusais. Ah, qu'il eût mieux valu pourtant, mais je voulais le voir et savoir ce qu'il m'offrirait, cet hôte. Il n'allait pas se montrer tendre envers les miens. On fit du feu, un sacrifice, et prenant les fromages, on mangea tous assis dans la caverne en l'attendant. Dominique Frère, ça c'est la première trace écrite de la consommation de fromage dans l'Antiquité, c'est ça ?
Alors, de la fabrication et de la consommation. Et anecdote, alors qui est plus évidemment qu'une anecdote, quand Ulysse et ses compagnons entrent dans la grotte, qui est en fait une grotte bergerie très bien organisée, la première chose que voient Ulysse et ses compagnons, ce sont les fromages, les clés qui sont emplies de fromage qui est asséché.
Ça adoucit un peu le portrait de Polyphème, ce monstre anthropophage, qui est aussi un berger fromager tout à fait humble et assez bon finalement.
C'est un très bon éleveur et a priori un très bon fromager, puisque Ulysse se régale des fromages de Polyphème.
C'est pas la seule source textuelle, Dominique Frère, qui atteste de la production de fromage. Vous parliez de Pline l'Ancien également. On peut mentionner un autre agronome romain qui s'appelle Columel, qui lui écrivait au 1er siècle. Qu'est-ce qu'il vous donne comme indice, Columel, concernant le fromage, sa fabrication ?
Alors, Columel ne nous donne pas la recette, hélas, donc du fromage, la manière de fabrication de la manière de fabriquer le fromage, mais il donne des indications en fait à l'usage des bergers. Et à l'usage, on peut dire de ces bergers, parce que Columel était un grand propriétaire, c'était pas seulement un agronome, il était aussi un grand propriétaire terrien. Et il nous parle des deux modes donc de faire du fromage, et donc une mode qui est pour faire un fromage frais, et un autre mode qui est fait pour fabriquer un fromage qui va se conserver durant l'hiver, c'est-à-dire la période. Donc on ne peut fabriquer de fromage faute de lactation des femelles.
Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Dominique Frère, c'est qu'on parle de Homère, voilà, un récit épique. On parle de Columel, un texte agronomique. Est-ce que d'autres textes, d'autres natures, d'autres approches finalement vont parler de fromage ? Je pense à des philosophes, je pense à des textes religieux éventuellement. Est-ce que le fromage se retrouve à la croisée de toutes ces sources-là ?
Alors, le fromage se retrouve évidemment à la croisée de toutes ces sources, pour la bonne raison que dans le monde grec comme dans le monde romain, le fromage était vraiment l'aliment quotidien. Que ce soit des riches, des pauvres, et le fromage se mangeait d'abord après avoir été trituré, broyé, mélangé au mortier. Et donc, on a de nombreuses recettes qui intègrent du fromage, des recettes pour les riches, mais aussi des recettes pour les plus pauvres. C'est la principale protéine animale que l'on consomme dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine.
Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui se sait, Dominique Frère. Peu de gens le savent finalement quand on pense à la nourriture nourriture de l'Antiquité. On pense surtout aux fruits. Enfin, on a des images d'Épinal qui nous viennent en tête et le fromage n'est pas forcément central, alors que, vous le dites, ça fait partie vraiment du centre de l'alimentation quotidienne.
Oui, c'est au cœur de l'alimentation quotidienne, avec évidemment tous les autres éléments de l'alimentation quotidienne, c'est-à-dire l'huile, le vin, le vinaigre qu'il ne faut jamais oublier, donc les céréales, les légumes, les légumineuses, tout cela joue un rôle important, mais tout cela pouvait être broyé au mortier, justement avec du fromage frais, quand le fromage était dur et sec, donc on le râpait. Et on a ainsi du simple paysan, donc jusqu'à la cour de l'empereur Auguste, par exemple. On sait que l'empereur Auguste, par exemple, consommait à son petit déjeuner, consommait du fromage très frais.
Alors, si tout le monde consommait du fromage, qui fabriquait du fromage? Est-ce que tout le monde était fromager en puissance?
Alors, tout le monde, non. Quand Columel écrit son texte, il s'adresse d'abord et avant tout aux bergers. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important. Mais il faut savoir qu'on a l'attestation de l'existence de fromageries, par exemple, dans des contextes urbains. Pour la bonne raison qu'on sait qu'on pouvait faire fumer le fromage en contexte urbain. On sait que, on peut dire, les ancêtres des restaurants, donc que ce soit à Pompéi ou ailleurs, pouvaient aussi faire fumer du fromage. Et on a nombre de faisselles qui sont retrouvées dans des contextes urbains.
Alors, dans ces contextes urbains, s'il y avait un commerce du fromage, est-ce que ça signifie que ce commerce pouvait s'étendre au-delà d'une ville, de la même façon que le vin ou l'huile s'échangeaient dans des aires géographiques plus vastes que celles de leur production? Le fromage était-il aussi un produit d'export, pour parler un petit peu avec des
termes? Ah oui, donc le fromage était évidemment un produit d'export. Alors, on a évidemment Pline, l'ancien, qui nous parle des fromages que l'on peut trouver à Rome, donc à son époque, au 1er siècle après Jésus-Christ. Et parmi les meilleurs fromages que l'on peut trouver à Rome, il y a lesquels? Les fromages gaulois. Et il nous dit que ces fromages gaulois viennent de Narbonnaise, de la province narbonnaise ou des environs de la province narbonnaise. Et donc si on avait eu un salon de l'agriculture à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien dans la catégorie des fromages frais, voire très frais, les fromages gaulois auraient été primés.
Vous parlez de fromages frais, voire très frais. Justement, quels étaient les fromages qui avaient le goût des Romains et des Antiques, plus globalement? Quel type de fromage était sur leur table et vers lesquels ils allaient en priorité?
Donc ils préféraient de très loin les fromages frais, voire les fromages très très frais. On sait pourquoi, parce qu'ils ont un goût pour tout ce qui est mou en particulier. Les fromages salés, voire très salés, parce qu'ils aiment aussi le goût du sel. Ils aiment les fromages aromatisés. Alors, les fromages fumés. Le fait de faire fumer le fromage, évidemment, permet de lui donner un goût caractéristique, mais permet aussi la conservation du fromage. Donc, on a deux avantages au fait de fumer le fromage. Et surtout, on nous dit, justement, dans les recettes, ou plutôt les modes d'emploi que nous donne Columel, on va aromatiser le lait aussitôt après la traite. Donc, vous allez plonger dans le lait, c'est une sorte d'infusion, donc des branches de thym, par exemple, du sucre de figuier, qui donne un goût très intéressant au fromage. Donc, on aime d'abord et avant tout le fromage frais et le fromage aromatisé.
Alors, vous parliez de Columel, qui ne donne pas la recette, mais le mode d'emploi. Si on résume, les objets qui servent à fabriquer le fromage sont identifiés, mais sont des preuves assez ténues. On n'a pas de recette exacte. Les gestes pour fabriquer ces fromages aussi nous échappent, comme beaucoup de gestes d'un point de vue artisanal quand on fait de l'archéologie antique. Alors, par quoi on commence quand on est archéologue expérimental comme vous pour essayer de retrouver ces fromages antiques? Comment vous entamez votre processus de fabrication de fromage?
Alors évidemment, la première chose, c'est de se familiariser avec les techniques actuelles de la fromagerie. Donc c'est-à-dire devenir amateur et fabriquer soi-même du fromage, en sachant que ce n'est pas compliqué de fabriquer du fromage chez soi. Mais par contre, fabriquer du bon fromage, c'est autre chose. Et surtout, pouvoir répéter la fabrication du bon fromage. Donc ce qui fait que quand on fabrique à l'échelle domestique chez soi du fromage, parfois il est bon, parfois il est très bon, parfois il n'est pas bon, parfois il n'est absolument pas bon. Parce que, on est amateur, on n'est pas professionnel en fromagerie. Donc ça, c'est la première chose. Donc s'initier donc à la fabrication des différents types de fromages actuels. Et ensuite, faire de l'ethnographie, donc c'est-à-dire s'intéresser aux pratiques anciennes, mais relativement récentes, c'est-à-dire des générations qui nous ont précédés, avec une approche qui est régressive. c'est-à-dire interroger les producteurs actuels, mais les interroger sur donc quelles étaient les pratiques de leurs parents, de leurs grands-parents, voire de leurs arrière-grands-parents, s'ils ont des souvenirs. Et puis donc cette approche ethnographique, en sachant que moi je ne suis pas ethnologue, donc cette approche ethnographique, donc là aussi je ne peux pas devenir un ethnologue amateur. Donc ce qui fait que j'ai eu la chance, grâce donc au CNRS, de résider pendant un an et demi au MUCEB, donc qui est l'héritier du Musée des Arts et Traditions Populaires. Et donc, on a pu aller faire une mission, ce qu'on appelle une mission collecte, une enquête collecte, pardon, donc en Corse et en Sardaigne, justement, pour acquérir les connaissances sur les pratiques traditionnelles et anciennes de la fabrication des fromages.
À partir de ce travail-là, quelles sont, si on doit résumer à gros traits, les grosses étapes pour fabriquer un fromage à la mode antique ?
Alors, à la mode antique, premièrement, c'est d'abord la chauffe du lait, l'aromatisation et la chauffe du lait, en sachant qu'il y a différents modes de chauffe du lait. Et on a une pratique qui est restée traditionnelle, alors de l'Antiquité, parce qu'on disait que pour chauffer un lait à dimension médicinale, il fallait le chauffer avec donc des pierres de mer, c'est-à-dire des galets, et donc des galets brûlants. Mmh. Alors ça, on a ça dans des textes sur les laits médicinaux. C'est une pratique qui a existé, par exemple, dans le Pays Basque et a existé en Corse, jusque dans les années 1960-1970, avec une question qui est toute simple, que l'on pose, c'est pourquoi chauffer le lait avec des galets brûlants. Ensuite, il y a les méthodes de fabrication de la présure, puisque actuellement en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des fromagers qui fabriquent eux-mêmes leur présure. Et là aussi, ce sont des savoir-faire qui ont disparu, mais même depuis longtemps, hein, puisque la présure industrielle donc a commencé à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et là, donc il a fallu que je lise les différents traités, en particulier des traités anglais, c'est ça qui est curieux, hein, sur la fabrication de la présure au 18e, début du 19e siècle. Présure animale, je ne me suis pas encore attaqué ici à la fabrication de la présure d'origine végétale. J'ai fait des tentatives, mais ratées jusque-là.
Alors Dominique Frère, c'est l'heure du goûter, j'ai un petit creux, et très généreusement vous êtes venu avec l'un de ces fromages. Alors ils sont devant moi là, c'est deux fromages très différents, il y en a un qui est carré, un peu vert, l'autre qui est rond, ocre un petit peu. Dites-moi quels sont les
alors,
deux fromages qu'on a dans
nous,
et je déplie mon
couteau. S'il est vert, parce que c'est un fromage aux orties, un mélange de lait de vache et de lait de chèvre.
Donc, il est assez tendre, je suis en train
de l'étaler. Il est tendre, et oui, c'est un fromage qui a un peu plus d'une semaine, donc c'est pas vraiment un fromage frais, peu en présuré, c'est-à-dire je n'ai mis que peu de présure. Donc c'est-à-dire que c'est un fromage qui est vraiment lactique, c'est-à-dire il a mis plusieurs heures à cailler. Il a mis beaucoup de temps à y goûter aussi, donc ce qui en fait un fromage encore plus lactique. Et donc un fromage que j'ai fait fumer. Alors donc, c'est goût
délicieux.
Il faut aimer hein, le fromage fumé. Vous pouvez sans doute vous apercevoir qu'il est salé, parce que même chez Columel, on voit qu'il faut vraiment saler le fromage. Donc le goût fumé et très salé du fromage, ce sont évidemment des goûts qui ne sont pas forcément nos goûts actuels. Et alors là, ce n'est pas une recette antique, mais c'est une recette que je reprends dans des traités de laiterie et des fromageries des 18e et du début du 19e siècle. Donc du fromage aux orties, qui était très répandu à cette époque. Mais je me dis que, bon, à l'époque antique, comme on utilisait tout ce que l'on pouvait utiliser, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait pu aussi faire du fromage aux orties.
Vous pouvez ouvrir une fromagerie, parce que je viens de le goûter sur un pain à la figue que vous m'avez conseillé d'acheter.
Oui.
Donc je suis venu avec mon petit pain à la figue en studio. C'est vraiment Noël sur France Culture. Et c'est exquis. Ce deuxième fromage-là, qui est dur comme du bois, en revanche, je pense que je vais pas m'y attaquer.
Celui-ci, je ne vous le ferai pas goûter. Donc là, c'est un fromage qui est ancien, donc un fromage qui est très dur, en effet, comme nous le disent les textes. Hein. Alors, fabriqué selon les méthodes de Columel, avec cette notion d'affinage qui n'existait pas chez Columel, cette notion d'affinage qui apparaît vraiment au Moyen-Âge. Et en fait, j'aime bien laisser vieillir des fromages sur la longue durée, hein, pendant des mois, voire pendant des années, pour voir tout simplement l'évolution des fromages. Ça correspond d'ailleurs au texte, hein, le fromage durci. Alors, il y a des textes qui nous parlent justement des fromages qui sont durs comme de la pierre. Évidemment, dans l'Antiquité, c'est pas ceux que l'on préfère, mais on va quand même pouvoir les utiliser en les râpant pour la préparation d'un plat.
Et donc là, c'était beaucoup plus fort et beaucoup plus marqué comme goût. Je m'y risquerais pas.
Non, moi aujourd'hui. Non plus d'ailleurs.
En tout cas, merci beaucoup de l'avoir apporté. Une toute dernière question avant de vous quitter. Dominique Frère, vous étiez venu nous parler d'archéologie des parfums aujourd'hui, d'archéologie des fromages. Donc on a eu l'odorat, le goût. Jusqu'où peut-on aller dans cette archéologie des sens ?
Le problème de cette archéologie sensorielle, c'est que là, le fromage que je viens de vous faire goûter, nul ne pourra dire si ça correspond au véritable goût qui était ceux des fromages antiques. Tout simplement parce que même si on essaye de reproduire les gestes qui étaient ceux donc des bergers de l'Antiquité, eh bien le lait n'est pas le même, les ferments ne sont pas les mêmes. Donc c'est tout un monde, en fait, évidemment, qui nous échappe. Mais ça nous donne quand même une idée. On n'a pas la prétention de refaire du fromage antique, mais on a la prétention de faire ce qu'on appelle des figures sensorielles, pour essayer de se rapprocher à la fois de l'aspect visuel, des odeurs, et peut-être aussi se rapprocher des goûts des fromages antiques.
En tout cas, je n'avais jamais rien goûté de tel, et je me suis régalé. Merci beaucoup à vous, Dominique Frère, d'être venu nous parler de votre enquête archéologique sur les fromages antiques. Je rappelle le titre de votre essai qui se déguste sans fin, « Fromages antiques à la recherche des fromages perdus ». C'est paru aux presses universitaires de Rennes. Merci encore. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve-Étienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Hélène Trigueros et Olivier Bétard. Merci à Alex Dang, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.